gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Sur Radio Canu au 102.2. Retour au direct, comme dirait Jean-Yves, pour la causerie. Et vous êtes bien dans un monde où l'on peut trouver 300 milliards pour aller faire la guerre et que 100 millions pour mourir dignement. Je vous laisse regarder les derniers chiffres. Ce soir dans les studios, Clara, la technique.
Bonsoir.
Stan.
Bonsoir.
Jean-Yves.
Bonsoir. Et Fab.
Et oui. Et donc, pour nous joindre, il faut faire...
Eh bien, vous pouvez nous contacter par mail et ça se passe à La Causerie Canu, tout attaché en minuscule donc, lacauseriecanu@gmail.com.
Et donc ensuite, si vous voulez voir nos blogs, il faut aller sur...
Alors, pour les blogs, je me sens vachement bien dans ce rôle de speaker. Pour les blogs, ah oui, c'est ça.
Du coup, c'est ça. Allez, c'est...
blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org// pour les plus radicaux, la causerie. Donc je refais blogs.radiocanu.org/la causerie. Ou vous allez sur le site internet de Radio Canu, vous y trouverez les blogs des émissions et dedans vous y regarderez, il y aura la causerie écrit.
Ouais.
Et il y a que nous qui s'appelle comme ça.
C'est pour ça que je comprends pas pourquoi vous dites et pour les blogs. C'est pour le blog.
C'est vrai. Pour le blog de l'émission.
Voilà, voilà.
C'est un moment que t'étais pas venu, je suis pas sûr que tu reviennes. Et d'ailleurs, on est aussi sur un espace commercial qui s'appelle Facebook.
C'est
parce
ça.
Que Facebook n'est qu'un espace commercial.
C'est pas d'information ?
Ben non.
Ah mince,
voilà.
Je croyais.
C'est un endroit où on fait des sous-sous. Pas pour nous, hein. Monsieur Facebook fait des sous-sous. Et d'ailleurs, en parlant de personnes qui fait beaucoup de sous-sous, ce soir, Stan, tu voulais nous présenter l'immense, le merveilleux, le génial, le... Oh, le phare de la pensée de ce siècle, Elon Musk.
Putain, tu le présentes vachement bien, et surtout parce que moi, dans mon début de chronique, ça commençait par moi, je vais vous parler d'un petit gars pas super connu. Tu m'as un peu cassé mon truc.
Vous êtes pas raccord là, les gars.
On n'est pas du tout raccord. Jamais on est raccord. Donc voilà, c'est pas un petit gars, il est un petit peu plus connu que ça. Alors, il faut que je démarre maintenant, c'est parti. Donc oui, non, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est pas n'importe qui. Il a une petite fortune, hein, qui est estimée à seulement 20 milliards de dollars. Il se classe même pas dans le top 20 des richesses américaines, il est un peu nul, il est 21e, c'est un petit peu la loose. Il a fait le buzz cette semaine, c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu de lui avec ses fusées Falcon. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu en fait ce qui s'était passé, donc le principe, non, ça coûte extrêmement cher de faire sortir une fusée donc de l'atmosphère, de la gravité terrestre en fait, et il s'était dit, ben... essayons d'optimiser un petit peu le truc, et puis ben, ce qui va nous servir... à faire sortir de l'atmosphère, on va essayer de les récupérer. Vu que voilà, on va essayer de les récupérer, et après hop, on fait un petit check-up, on refait le plein, et hop, le lendemain, on peut repartir. Donc c'était d'ailleurs, pour le coup, quand même très cool à voir, enfin c'était assez surprenant, et j'ai lu ici, à droite à gauche, que c'était pas des innovations technologiques de dingue, tout ça, j'y connais pas assez pour vraiment dire ça, mais moi, de mon point de vue, en tout cas, j'ai trouvé ça super stylé. Et surtout, donc, il devait récupérer 3 fusées. Il n'en a récupéré que 2.
Enfin, c'est les boosters qu'il doit récupérer.
Oui, voilà, pas, récupérer, oui, c'est pas la fusée. Ouais.
Les propulseurs,
ouais. Les propulseurs. 3 propulseurs. Il y en a un qui s'est vautré un petit peu ailleurs. Mais les deux autres sont vraiment revenus de manière super synchronisée. La vidéo, elle est absolument géniale. C'est trop la classe. mais bon, alors, bien entendu, on leur parle d'Elon Musk. Hein. Donc, c'est pas que ça. Hein, c'est pas que les fusées. Hein, et c'est donc le fondateur. Directeur et PDG, donc respectivement de SpaceX, de Tesla et de The Boring Company. Et il y en a d'autres, en fait, il y a plein de petites entreprises autour qu'il a créé, des trucs comme ça, etc. Donc ce personnage, cet homme, a une vision que je qualifierais de très, 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 très. Il faut sauver la planète, c'est pas un mal pour le coup. Beaucoup de ses idées tournent autour de il va y avoir l'extinction de l'espèce, en fait. Donc, il faut trouver une solution, il faut faire quelque chose. Avec SpaceX, donc, sa vision à long terme, c'est conquérir Mars.
Coloniser d'autres planètes.
Voilà. D'abord Mars, il veut mettre des humains dessus, parce qu'il se dit que de toute manière, on va tous mourir. Et avec Tesla, donc, il y a toute cette histoire de création d'énergie durable et réduction du réchauffement climatique, etc. Tesla, pour aussi replacer, c'est, on le connaît mieux pour la partie voiture, c'est les voitures électriques, mais il y a toute cette histoire de créer des batteries qui peuvent être utilisées dans plein d'autres domaines.
Ouais, d'ailleurs, on peut rappeler quand même que Tesla, au départ, son métier, c'était même pas de faire des bagnoles. C'était vraiment de faire des batteries et que la bagnole est un moyen de démontrer qu'on peut transporter l'énergie.
C'est juste pour montrer à chaque fois que on progresse et que, etc., etc. Quoi. Il est devenu, pour le côté, donc je viens de dire qu'il se bat vraiment pour l'humanité, dans l'idée.
De son point de vue, en tout cas.
De son point de vue. On allait y venir. Il est devenu, au passage, donc, conseiller de Trump après ses élections et s'est retiré après l'annonce de l'intention du retrait aux accords de Paris sur le climat. Donc, pour le coup, il est à peu près raccord avec lui-même, c'est-à-dire qu'il se bat d'un côté pour le climat, donc de l'autre, il s'est dit bon, je vais peut-être pas rester ici parce que ça fait une mauvaise pub.
Ce qui est dommage, c'est qu'il soit pas parti pour d'autres raisons.
Oui, non, mais pour ça, il y est allé pour donner des raisons.
Mais bon. Non, mais quand on y réfléchit, c'est cool, quoi. Il est pas pour que Trump sorte de l'accord de Paris. Par contre, ça l'a pas trop dérangé.
Tout le reste, allait.
Le reste, le sexisme, tout le reste, le racisme,
convient,
tout ça.
Pas de problème pour le reste. Mais bon. Donc oui, on pourrait presque croire qu'il est humaniste, ce garçon. Après, c'est une vision qui est un petit peu aberrante pour moi sur certains points. Il y a une société qu'il a voulu booster, donc The Boring Company. Il s'est dit, il faut que je fasse une levée de fonds. Enfin, pas une levée de fonds, il faut que je trouve de l'argent pour cette société. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Humaniste que je suis et proche du peuple, et puis avec une certaine importance, qu'il ne faut pas que l'extinction du peuple, ça me fait peur et tout. Donc, je vais créer un petit lance-flamme. donc voilà, donc en fait c'est plus un chalumeau hein, avec un look de lance-flamme, mais dans ma tête, un mec qui est humaniste ou qui veut sauver l'espèce humaine, il fait pas une réplique d'une arme en fait, ça colle pas, ça marche pas dans ma tête. Alors après c'est de la com, ça a très bien fonctionné, il a quand même levé 10 millions avec cette histoire, hein, et 20 000 qui ont été vendus à 600 euros pièce.
Notamment chez survivalistes américains qui ont acheté ça comme des petits pains quoi.
Voilà. Donc c'était bon, pourquoi pas. non, à côté de ça, il a un truc bien, hein, vraiment un truc que moi j'apprécie. Il est peut-être la figure la plus importante actuelle contre l'intelligence artificielle. Enfin, pas contre l'intelligence artificielle, mais qui essaye de mettre un peu des stops et qui essaye de dire attention, on va trop loin, on va trop vite, on n'a pas repris les bases comme il faut, on n'a pas fait attention. J'en ai déjà parlé dans une causerie précédente, on en a déjà parlé plusieurs fois. Les dangers de l'intelligence artificielle, ça va très très loin. Donc, il a créé une société à but non lucratif appelée OpenAI, dont la mission est de construire et de fournir à l'humanité tout entière une intelligence artificielle aux besoins. Si l'intelligence artificielle prend le pas, il faut que tout le monde puisse en profiter. Donc, ça c'est franchement bien. Et puis, encore une fois, moi je... Sur l'intelligence artificielle, donc en tout ce qu'on lit, tout ce qu'on peut voir, etc., ça va très vite, vraiment, ça peut partir très très rapidement sur quelque chose qu'on maîtrise pas, donc il faut faire attention. Donc il crée cette société et je trouve ça cool, mais à côté de ça, il crée une autre société qui s'appelle Neuralink et dont l'objectif est de relier le cerveau à des circuits intégrés dans le but de fusionner l'intelligence humaine et artificielle.
C'est un peu ces paradoxes qu'il a en permanence et qui l'éloigne d'ailleurs de l'humanisme, pour être clair. C'est ce côté de dire, en fait, tant qu'on se connecte, tout va bien. Il a toujours cette image-là de dire tant qu'on reste connecté, parce que c'est pareil quand il envoie dans l'espace, bon là, il a envoyé une bagnole avec un scaphandre dedans, pour faire de la pub au passage. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, mais regardez, mes scaphandres, c'est les premiers scaphandres entièrement bioconnectés. Et donc ça devrait être mieux que des scaphandres pas connectés. Mais ça veut dire quoi, bioconnecté? Personne ne le sait, quoi. C'est ça qui est, enfin, c'est flou, quoi. C'est cette limite qu'il met avec tout ça, quoi.
Moi j'ai une autre très grande problématique, et c'est ce qui me questionne très souvent avec Elon Musk. C'est que d'un côté, ils fondent une société pour dire, bah, l'intelligence artificielle, c'est grave, et si ça arrive, il faut qu'elle soit, que tout le monde puisse y accéder.
Et l'autre, il la finance, quoi.
À côté de ça, non, c'est pas qu'il la finance, mais c'est que Neuralink, c'est s'il crée un truc qui circuit intégré au cerveau, il va pas l'offrir à tout le monde.
Oui, c'est clair.
C'est très, beaucoup trop important comme démarche, etc. Et donc là, il va y avoir du favoritisme. Il va y avoir des gens qui vont pouvoir se payer ça et d'autres gens qui vont pas pouvoir se le payer.
C'est son côté démiurge, quoi. C'est le gars, c'est moi qui vais décider qui aura le droit ou pas d'avoir accès. Et ça se fera au fric, hein. Parce que...
Ah, bah, ça va complètement être au fric. Parce que son genre, c'est de faire de l'argent, hein, quand même. C'est un homme. Allez, pourquoi pas? Plutôt bon. Pourquoi pas? Je me lance là-dedans. Je vais dire que c'est presque un homme plutôt bon. Allons-y. Il est libertaire, il a des idéaux très 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 marquées, mais pourquoi pas? Ok, bah, c'est un mégalomane.
Il se dit libertaire.
Oui,
parce qu'il n'est pas libertaire, clairement.
Non, oui.
Il est plus libertarien que libertaire.
Libertarien, excusez-moi. Il peut être libertaire, libertarien.
Mais lui, il dit libertaire.
D'accord.
Il joue sur les mots en permanence, parce qu'en américain, libertarien et libertaire, c'est quasiment le même mot. Et du coup, il joue en permanence sur cette notion-là, en disant, mais je suis libertarien. En fait, non, il est libertarien, c'est-à-dire, il est pour l'abolition de l'État au profit du capitalisme.
Complètement. Et tout ce qu'il fait tourne autour de ça. Et donc, bon, c'est un mégalomane, hein, mais genre bien. Hein, qui vraiment tout autour, enfin tout ce qui est autour de lui tourne autour d'une com très bien maîtrisée. Donc on en parlait, le test de la fusée, il va quand même balancer une voiture Tesla pour pouvoir faire des belles photos, pour pouvoir dire regardez, etc.
Et en même temps, on l'a tous regardé.
Et oui, on a tous regardé. Et puis c'était fait, encore une fois, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est un très beau concept marketing. Il nous enveloppe ça très très bien, et ça marche plutôt bien. Bon, il parle presque pas de ses ingénieurs, hein, on en a jamais vraiment entendu parler, du moins dernièrement, tout ça, c'est pas trop les mecs quand j'ai vu devant.
On a l'impression qu'il fait tout seul, quoi.
On a l'impression, alors, comme on en a parlé pendant la prépa, alors oui, pour le coup, lui, il a des diplômes. Hein, il sait de quoi il parle quand même, c'est pas non plus le juste un entrepreneur qui est juste là avec de l'argent. Il a des diplômes, c'est une certitude. Après, bon, c'est peut-être qu'il y a de ses idées dans tout ça, mais c'est pas lui qui les réalise, c'est pas lui qui a la moitié des idées, c'est pas lui qui est confronté à 99% de la problématique, etc., etc. Il y a bien des équipes derrière lui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, hein, c'est multiples entreprises. Et donc voilà, il tire beaucoup la couverture vers lui. Bon, bah, c'est un mégalomane, quoi. Et encore une fois, même si je prends toujours dans ce même côté, je vais vous parler d'Hyperloop. Alors, Hyperloop, pour clarifier aussi, donc c'est une de ces autres sociétés, c'est pas une société, c'est un peu plus compliqué, on rentrera pas dans le détail. C'est des transports souterrains qui permettraient de se déplacer à une vitesse de 1200 km/h. Voilà, c'est faire Lyon-Dijon aussi rapidement qu'un arrêt du métro C. Dans l'idée. Sur la com de Hyperloop, on a l'impression que c'est lui, que c'est son idée, que c'est sa réalisation, que tout est basé autour de ton truc. Alors que pas du tout, il y a rien en fait. C'est son idée à la base, il avait balancé un truc comme ça. Après, il a lancé un concours sur le concept. Et il laisse les autres entreprises faire le taf.
Et après, il rachète celle qui réussit.
Alors, ça va plus loin. Moi, je ne savais pas avant de faire la truc, et ça m'a beaucoup fait rire. Donc, bien entendu, comme c'est un concours, il y a aussi des entreprises qui vont se planter, donc celles qui vont perdre de l'argent, etc. Il va financer que celles qui vont réussir, bien entendu.
Évidemment.
Et là, on pourrait presque se dire, allez, encore quelques maintenant, je vais presque dire, oh là là, il a l'air cool encore ce garçon. Non, non, parce que... En fait, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai découvert ça. The Boring Company, j'ai découvert à quoi elle servait. Elle sert à faire des tunnels pour l'Hyperloop.
Ah oui, d'accord.
Donc si le truc fonctionne à la fin, etc., il a déjà prévu d'avoir la société qui va permettre de faire les tunnels pour. Sachant qu'à tous les coups, le gagnant, il va rentrer, il va donner des parts, etc. Donc après, il va choper les contrats, etc. Donc en fait, il essaie juste de se mettre bien, le garçon. Hein. Faut pas, voilà. Tesla, on en va en parler aussi brièvement. Le cœur de son activité, on en a parlé, donc c'est les batteries. Bah là, il y a plein de trucs. Donc sur l'intelligence artificielle, on a dit qu'il essaye de l'ouvrir à tous avec son association, avec sa société à but non lucratif, blablabla. Tesla, c'est bien, bien secret. Il n'y a pas de problème. Ça, par contre, c'est bien que pour lui et en interne, on va pas l'ouvrir aux gens. C'est vraiment, c'est sa vision de l'avenir. Économiquement parlant, ça semble assez, voilà, du lourd, quoi. Parce que c'est pas que les voitures, bien entendu, il y a tout, ça doit s'impacter partout. Pour lui, c'est pas que des voitures, c'est vraiment.
Oui, il veut même créer des briques qui retiennent l'électricité, des batteries dans les murs pour que la maison devienne autonome. Voilà, mais en fait, il le dit bien, hein, il dit ce sera des maisons Tesla.
Oui,
ça, il le dit directement. Il dit c'est pas pour offrir à l'humanité, c'est pour que vous m'offriez à moi des sous.
Voilà. Donc... Ben, comme on imagine, la société, la personne qui est en dessous de cette société, qui détient la création de l'énergie au niveau mondial, elle a beaucoup, 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 beaucoup de pouvoir, en fait. Vraiment beaucoup. Au passage, avec SpaceX, il va aussi envoyer une constellation de 4400 satellites pour pouvoir connecter le monde entier à Internet. Là, vous visualisez le mec qui a à la fois l'énergie, qui contrôle Internet, là où lui, il va, en fait. Et c'est flippant. C'est flippant parce que, oui, il estime qu'il peut mieux faire que les autres, hein, que l'avenir entre ses mains, il sera meilleur. Bon, ça déjà, c'est très dangereux. Et si on va sur ça, on va quand même encore plus loin, c'est qu'il estime, et il l'a dit, que arrêtez de donner de l'argent au public, donnez-moi l'argent, moi j'en fais meilleur usage.
C'est en ça qu'il est totalement libertarien.
Enfin, c'est pour ça qu'il est libertarien, complètement. Et c'est ça qui est dramatique aussi, c'est que c'est dans cette vision de la chose, ben, au bout d'un moment, toutes les créations, toutes les valeurs, parce que là, pour lui, bon, bah, peut-être que ça a marché de nouveau, peut-être que oui, il a sûrement fait mieux que du public, avec moins de moyens, etc. Sûrement, peut-être, j'en sais rien, je m'en fous.
Et encore, ça se discute, parce qu'il y a plein de gens qui disent, quand on gratte un peu, en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on gratte, on se rend compte que, là, pour la superfusée, il annonçait un budget, en fait, et il y a des gens qui ont dit oui, mais sauf que, par exemple, il calculait pas combien lui avait coûté le pas de tir. C'est à l'endroit où on met la fusée. Alors que quand la NASA, par exemple, donne ses chiffres, ou Ariane, ils sont obligés de tout prendre en compte, du pas de tir à la fusée. Et ils disent, bah oui, c'est facile de dire on était moins cher si vous enlevez quelque chose qui coûte un tiers du prix du lancement. C'est, voilà, tu dis, ah bah j'étais un tiers moins cher. Oui, bah tu comptes juste pas ce que t'as mis, donc c'est sûr que c'est normal.
C'est sûr que ça coûte moins. Ouais. Et donc, oui, non, bah, ça c'est très grave dans tous les cas parce que. Dénigrer le public, bah, c'est aussi dire que c'est bon, toutes les innovations du futur, tout ça, ça sera entre les mains d'entreprises à chaque fois, et on sait quel danger ça peut représenter de
clairement, ouais.
Mettre ça à cet endroit-là. Et c'est ce que, là où moi je voulais un petit peu en dire, ou venir, et quand je disais que c'est un mec bien ou n'importe quoi, c'est que, allez, on est fou, on va le croire. Hein. On va se dire que lui, il est fondamentalement bon. Que on peut s'imaginer que lui, oui, il a vraiment une vision de l'avenir qui est correcte, et voilà. Donc, c'est pas le cas, hein, mais imaginons-le, juste. Mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, il va devoir quitter cette société-là. Il va peut-être mourir après-demain. Peut-être ça va être un actionnaire, un héritier, un repreneur. On ne sait absolument pas de quoi sera fait l'avenir. Donc, même si le mec est fondamentalement bon, mettre autant de pouvoir dans un même endroit, c'est forcément chaotique pour plus tard, parce que ça reste une entreprise, ça reste dans un milieu capitaliste, et ils vont en faire un usage qui sera pas humaniste, en fait. Hein, faut pas se leurrer sur le sujet. Pas, hein, c'est, voilà.
Un humanisme étrange.
Voilà, un humanisme vraiment particulier. Mais c'est un constat là que je fais sur Elon Musk, parce que juste, on voit beaucoup, beaucoup d'articles sur le personnage, et en disant beaucoup de bien généralement sur lui.
Alors, c'est assez pratique, parce que comme il est, j'ai lu ça, il est le troisième fournisseur de publicité dans les magazines et les journaux américains. Donc forcément, il y a pas mal d'articles, un peu pour le brosser dans le sens du poil, histoire qu'il continue à faire de la publicité.
Ça aide. Mais donc oui, mais c'est un constat là, en disant que bon, bah, même si lui, il est fondamentalement bon, on ne sait pas ce quoi sera fait l'avenir. C'est le même constat que je vais faire avec Google, avec Facebook aussi, qui sont deux superpuissances économiques qui ont pris part dans des domaines qui sont absolument dingues, en fait, parce que le futur de la médecine est quasiment entre les mains de Google, en fait,
ouais.
Sans qu'on vraiment le comprenne, sans qu'on sache vraiment tout ce qui se passe. Mais
ce qu'on appelle la médecine connectée, justement, voilà. D'où son nom, bah, tout ce qui est capteur, tout ça, en fait, Google a quasiment 80% des brevets, quoi. Donc c'est flippant. Hein.
Et pour être sûr, parce que Google, c'est encore en dessus, hein, on est Elon Musk à un niveau, mais Google est encore en dessus. Un des plus gros actionnaires de Tesla, c'est aussi Google.
Ouais.
Donc les choses sont liées.
Ils s'aiment bien.
Ils s'aiment bien. Non, voilà, c'est juste, faut même des fois sur certaines choses qui semblent très très bien au premier abord, faut faire attention parce que généralement derrière, malheureusement dans le monde où on est, il y a souvent quelque chose un peu sale et il faut faire attention à tout ça.
Non, mais c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il y a eu vraiment dans les médias, et je vais en parler dans ma chronique après, donc il y a un côté où comme personne maîtrise la science, quasiment dans les journalistes, tout le monde trouve génial ce qu'a fait le bonhomme. Et en fait, il y a un gars quand même de la NASA qui a expliqué, mais en réalité, si on avait eu le même budget qu'Elon Musk, parce qu'en fait, c'est Obama qui lui a fait un chèque en blanc de 2,6 milliards de dollars.
Ce qui a sauvé sa société à l'époque.
Oui, ce qui a sauvé d'ailleurs SpaceX.
Sinon, société s'arrêtait net.
C'est-à-dire qu'Obama, au lieu de donner à la NASA, ce qui était toujours le cas pour dire, voilà, sachant que la NASA, tous les brevets sont en bien public, c'est-à-dire qu'en fait, elle partage avec d'autres agences, et voilà, parce que c'est l'idée que ça appartient, entre guillemets, au peuple américain. américain. Là, en fait, il a donné 2,6 milliards à SpaceX en disant faites la super fusée. Et en fait, le gars de la NASA, il dit mais en fait, vous nous donnez le même budget. On arrive au même résultat, à peu de choses près. Et il dit c'est juste que, bah, il a eu le marché. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de donner au privé quelque chose qui devrait relever du public et qui devrait relever, en fait, du, comme le disait le gars, en fait, du contrôle par le peuple. Parce que c'est ce qu'il expliquait, c'est que la NASA est contrôlée par le Congrès américain. C'est-à-dire qu'elle doit rendre des comptes au peuple américain à travers son Congrès. On pense qu'on veut après de la démocratie représentative. Alors qu'Elon Musk, en fait, lui, n'a aucun compte à rendre. Mais c'est un budget qui vient des impôts. Donc c'est, et 2,6 milliards, c'est pas une paille.
Oui, c'est pas rien du tout, quoi.
Voilà. Mais c'est, je trouve ça juste fou, quoi. La façon dont il arrive à vendre son truc, quoi. Ouais.
Musique?
On attendait Jean-Yves, mais non.
Et de retour à Radio Canu, la causerie, 22h-23h tous les dimanches soirs. C'est un plaisir de vous avoir à l'antenne.
De nous avoir à l'antenne.
Je tentais un truc au pif. J'ai perdu ma page maintenant, je ne sais plus. Alors on vient de s'écouter le groupe Deluxe avec le titre c'est Shoes.
Ouais.
Et voilà, c'est un petit groupe que j'ai découvert, que j'aime bien. C'est des petits français et puis c'est trop cool en fait.
Ils sont bien.
Voilà. Et donc, oui,
ça bouge bien.
Ouais, ça bouge. Mais en plus, ils ont plein de styles différents, c'est assez sympa. Voilà. Donc, Fab, tu vas prendre la suite maintenant et tu vas nous parler de ces articles pseudo-scientifiques pour faire un petit peu de clic.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment le truc. Et ça rejoint d'ailleurs ce que tu disais par rapport à Elon Musk, c'est l'idée de gratter toujours derrière ce qu'on nous présente et garder un certain esprit critique et ouvert. Je vais vous parler d'un article sur les e-cigarettes qui a fait le tour d'Internet. D'ailleurs, ça a été le top trend. C'est comme ça qu'on dit le truc le plus
trend topic.
Voilà, yes. Trend topic de Twitter en France, qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire le truc le plus partagé pendant 2 jours. Donc on se rend compte que quand même c'est un truc qui. Alors c'est le Nouvel Obs en ligne qui lance cet article. La cigarette électronique est cancérigène et très dangereuse. Alors là, quand vous avez un titre comme ça, vous dites oh putain, il y a un problème.
Donc, je clique.
Voilà, c'est normal. On clique. On dit oulala. Alors c'est un article qui relate qu'en fait que des souris ont été exposées à des vapeurs de cigarettes électroniques et qu'elles ont développé des cancers divers et présenté des altérations de l'ADN. Oui, ça pose son âme, déjà, comme on dit. Là,
bah, altération voilà. De l'ADN, ça fait flipper.
c'est quand même balèze.
Tout l'article est tourné en mode catastrophe, au point qu'en lisant, on peut très vite se dire que non seulement la cigarette électronique, elle est dangereuse, mais elle est même plus dangereuse que la cigarette elle-même, voire même plus dangereuse que de rester le nez sur un diesel pendant 2 heures, voire même plus dangereuse que le cyanure. Non, je vous jure, c'est un truc de fou. Si vous lisez l'article, vous êtes déjà mort. C'est tout est tourné comme ça. Le ton est donc affolant et on y lit une phrase type que j'ai trouvé géniale. Des substances aux résultats imprévus qui seront sans doute la cause de morts rapides par cancer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, mais vraiment, c'était un article très très affolant.
Jetez votre e-cigarette, non.
Mais ce qui est intéressant, c'est maintenant, on va gratter un peu. Alors il y a des scientifiques quand même qui ont pris le temps de se dire c'est quoi cette étude, d'où qu'elle sort, parce que c'est quand même étrange qu'il y ait ça. Alors ils ont déterré un petit peu des choses, et notamment des problèmes. Là, le premier problème, c'est l'exposition. Créer artificiellement une exposition de 10 ans sur des souris en 12 semaines, ça tient pas du tout la route. C'est un petit peu comme si en fait vous mettiez un usage de e-cigarette 50 000 fois supérieur à ce qu'un fumeur de e-cigarette fait tous les jours. Vous voyez, c'est parce qu'en fait on les a exposés énormément à 50 000 fois la dose, quoi. Et en fait, c'est ce qu'ils disent, c'est que vous auriez mis de l'huile de friture, vous auriez eu le même résultat à la fin, c'est-à-dire développement de cancer, problématiques pulmonaires, parce que en fait, personne n'utilise ça comme ça, à cette dose-là et à cette concentration-là. Et donc, en fait, ils disent non, c'est pas très, 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 très scientifiquement viable comme étude. Et surtout, en fait, une exposition massive à n'importe quoi qui entre dans les poumons est par définition dangereuse. Même d'ailleurs à la vapeur d'eau.
Mais c'est pour ça que généralement, ils donnent. Il y a le taux.
Ouais.
Il y a un rapport, en fait, dans l'idée. C'est que normalement, on dit, t'as pas le droit d'être exposé à plus de temps. Enfin, il faut faire attention, etc.
Ouais.
Donc oui, si là, ils ont dépassé le taux.
Largement dépassé.
De base, c'est débile.
Donc ça, il y a les scientifiques qui critiquent, disent ça, c'est connu quand même depuis des années. Donc, on peut déjà relativiser. Le deuxième, en fait, il y a des gens qui ont relevé que le protocole était assez étrange, parce qu'il y a un petit souci dans le protocole. C'est que dire que l'on observe quelque chose, c'est vachement intéressant, mais encore, il faut avoir ce qu'on appelle une base de comparaison. C'est-à-dire que on l'observe par rapport à quoi? Et en fait, l'étude, qui est issue de l'Université de New York, elle pose pas clairement les bases de la comparativité. C'est-à-dire qu'on sait pas par rapport à quoi il y a plus de cancers. Est-ce que c'est par rapport aux fumeurs de cigarettes? Ou est-ce que c'est par rapport à la population lambda? Ou est-ce que c'est par rapport aux mêmes souris qui sont exposées à rien? En fait, elle est assez floue sur le résultat final. Et ça a surpris les gens. Mais c'est pas rare, parce qu'en fait, c'est une étude qu'on appelle une étude sur commande. C'est-à-dire des gens qui ont dit, est-ce que vous pouvez essayer ça et voir ce que ça fait? Je fais un parallèle. C'est exactement la même chose que quand on a exposé des singes à des vapeurs de diesel pour prouver que le diesel tuait pas. Ça sert pas à grand chose. Mais c'est une étude qui fait pseudo-scientifique. On vous commande ça. Vous rendez un truc qui est un peu bancal. Et puis on dit, bon, c'est cool. Voilà, vous voyez, ça tue pas ou ça tue, quoi. Mais ça va pas au bout, en fait. Parce qu'il n'y a pas de protocole clairement défini de ce qu'on cherche. Et puis, la conclusion de l'étude, en fait, a surpris aussi beaucoup de gens. En fait, la conclusion de l'étude, elle est super floue sur l'intention qui était mise derrière. Est-ce que c'était pour dire que la e-cigarette contient aussi des produits cancérigènes, ce qui est probable, je reviendrai dessus après, ou est-ce que c'était pour dire que finalement, la nicotine, c'est addictif? Et en fait, le problème, c'est que ben, vous lisez la conclusion, et en fait, moi, il y a l'accès à l'étude, hein, vous pouvez la trouver. J'ai pas compris, mais enfin, je suis pas un grand scientifique, mais dans le résumé, j'ai pas compris vraiment le but. Et en fait, il y a plein de gens qui disent, ben, en fait, nous non plus. C'est-à-dire que ça a laissé un peu perplexe tout le monde. Mais ça a fait cliquer. Et en fait, ça cache surtout la véritable info scientifique autour des cigarettes qui vient de sortir. Et cette info, les journaux n'en parlent pas. En fait, cette étude, elle fait partie de 800 autres études qui ont été compilées par le service de santé, l'Académie des sciences américaines, qui s'est lancée en fait dans ce qu'on appelle une méta-étude sur les e-cigarettes. Elles ont pris les 800 études dans le monde qui ont été faites sur les e-cigarettes pour les compiler et pour voir ce qu'on pouvait en tirer. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des faisceaux concordants de choses qui sont étranges ou pas. Et cette étude, en fait, elle a été non pas mise de côté, mais mise en doute lors de cette compilation. Sauf qu'elle a été mise visible. Parce que du coup, comme les gens ont dit, bah oui, il y a cette étude qu'on a... Mais les journalistes, enfin, les journaux, se sont jetés sur cette étude parce qu'elle faisait peur. Par contre, ils ne sont pas jetés sur les 799 autres qui ne disaient pas tout à fait la même chose.
Ouais, et à la rigueur, surtout, ils ont sauté sur celle-ci sans préciser qu'elle était plutôt un peu dénoncée comme c'est pas ça. Forcément sérieuse. Parce qu'à la rigueur, qui monte celle-ci, enfin, pour la rigueur, c'est pas dérangeant. Mais le problème, c'est de ne pas la présenter comme elle a été présentée par le collectif qui regroupe tout ça.
Et oui, mais si tu fais ça, et ben en fait, c'est moins sensationnel. Donc du coup, il y a besoin de sensationnalisme. Et c'est exactement ça, c'est que la méta-étude, elle est beaucoup moins sensationnaliste. D'abord, l'étude, elle conclut, la méta-étude, que dans tous les cas, ben, la e-cigarette, bien qu'elle reste nocive par certains aspects, elle est bien moins dangereuse que la cigarette à base de tabac. Voilà. Et ça repose sur trois facteurs qui sont évidents, qui sortent de ces compilations des 800 études. Il y a l'absence de goudron, l'absence de métaux lourds et la possibilité de mesurer clairement son taux de nicotine. Donc ils disent, rien que par ça, cet aspect-là, c'est moins nocif. Ça ne veut pas dire que c'est zéro nocivité, c'est juste moins nocif. Ensuite, la méta-étude arrive à une conclusion qui, elle, est toute scientifique, mais qui justement est souvent mis dans les médias comme étant quelque chose de négatif. La science n'a pas assez de recul pour avoir tous les tenants et aboutissants de la e-cigarette sur une exposition longue. Et pour une raison simple, ça fait moins de 10 ans qu'elle est sur le marché. Donc, en fait, les scientifiques ne disent pas on sait pas. Ils disent on n'a pas les données qui nous permettent de faire une étude à long terme. Vous voyez ?
Oui, ils disent surtout, scientifiquement, on ne peut pas vous dire si elle est ou non dangereuse. En fait, c'est plus...
C'est-à-dire que c'est d'ailleurs quelque chose de très scientifique de dire, je ne sais pas. À un moment donné, là non, pour l'heure, hein, tout de suite, là je sais pas. Mais peut-être que dans 5 ans, je pourrais revenir et vous dire, finalement, il y a ça et ça. Ce qui est logique, parce qu'on étudie au fil de l'eau. Mais néanmoins, il y a des dangers qui sont connus, qui ont été pointés dans cette méta-étude. Donc, ils auraient aussi pu faire un article, au moins pour informer les gens qui utilisent les e-cigarettes. Par exemple, la nicotine, on sait que c'est un puissant addictif qui a des effets aussi sur le cœur et la tension. Donc, en fait, ils ont dit, la nicotine est nocive, donc la e-cigarette a une forme de nocivité. C'est juste de béaba, mais c'est quand même bon de le rappeler. Donc oui, il y a bien un danger, surtout qu'on soupçonne la nicotine de favoriser certains cancers, comme celui de la vessie, du côlon et peut-être de la gorge, parce qu'en fait, elle agirait comme un accélérateur en cas de dégénérescence cancéreuse. Voilà. Mais ça, c'est ce qui est dans la méta-étude. C'est juste factuel, il n'y a pas... Voilà. La composition des cigarettes est parfois assez obscure, donc les chercheurs disent c'est un peu étrange, et ce qui peut exposer à des produits pas terribles, parce qu'on ne savait pas ce qu'il y a dans les produits, forcément. Voilà. Par contre, ils disent, là où il y a une bonne chose, c'est que contrairement au tabac, la réglementation sur les e-cigarettes oblige à mettre tout ce qu'on a mis dans le produit, ce qui permet aux acheteurs de prendre ce qu'il y a le minimum de choses. Voilà, donc ils disent, ça peut être dangereux, mais ça peut être contré par la réglementation actuelle, contrairement à la réglementation sur le tabac, qui est beaucoup moins claire dans ce qui... Voilà, on vous dit pas... par exemple, ils disent, étonnamment, les métaux lourds, ils sont pas stipulés sur les paquets, alors qu'il y en a dans tous les cigarettes. Et ils disent, il y a aussi une interrogation pour eux, d'après la méta-étude, sur les matériaux utilisés eux-mêmes dans la e-cigarette. Les réservoirs, le brûleur, tout ça, est-ce qu'il ne contiendrait pas en fait des produits nocifs que l'on ingérerait du coup en utilisant une e-cigarette ? Et eux, ils préconisent du coup, ces scientifiques, de faire des études plus poussées sur les plastiques et sur les métaux utilisés dans les e-cigarettes et de mettre des normes très strictes sur comment ils doivent être composés. Et comme ils disent, on l'a fait après tout pour les produits qui contiennent de l'alimentaire, on peut le faire pour des produits e-cigarettes. Voilà. C'est tout ce qui sort de la méta-étude, il n'y a rien de plus. C'est-à-dire, c'est des rappels de base, voilà. Mais on voit donc que, du coup, l'étude, elle n'est pas spécialement alarmiste. Et donc, en fait, elle ne fait pas la une. Parce qu'elle ne fait pas cliquer. Et oui, car nous sommes dans un monde où tout se passe aujourd'hui sur Internet. Et Internet a deux règles. Il faut faire le buzz et il faut faire du clic. Et quand vous n'avez pas des lolcats à partager, vous savez, des petits chats mignons, il faut que vous fassiez quelque chose qui fait cliquer. Et qu'est-ce qui fait cliquer? C'est la peur. Sur Internet, il a été démontré que plus vous faites peur aux gens, plus ils cliquent. C'est un truc étrange. Donc c'est pour ça que de plus en plus, les titres de journaux sont extrêmement racoleurs. Et que des fois, on a l'impression de lire Détective plutôt que Libération. Ou, vous voyez, c'est assez hallucinant, mais ça sert à ça en fait. Parce que quand on vous fait peur, vous avez tendance à aller cliquer pour savoir ce que contient l'article. Et des fois d'ailleurs, vous avez même tous vécu ça, enfin, moi y compris, je pense que tout le monde l'a vécu. On clique et on se dit, mais c'est que de ça dont ils voulaient me parler, mais pourquoi ils mettent ce titre-là?
Un truc que tu sais déjà depuis des années.
Ouais, c'est ça. Tu dis, bah ouais, rien de neuf quoi.
Okay.
Et là, c'est ça. Et ben, en fait, c'est un réel problème parce que toutes les infos scientifiques nécessitent du recul. Par définition, en science, c'est ce qu'on dit, pour avoir un esprit critique, il faut avoir du recul. C'est-à-dire qu'il faut prendre un pas de recul et se dire, est-ce que c'est nécessaire, là, maintenant, tout de suite, de parler de cette étude, ou est-ce qu'elle fait partie d'un collectif d'études? Et je vais parler plutôt du fait qu'il y a plein d'autres études qui disent un peu des choses différentes de celle-ci. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, cet esprit critique n'existe plus. Dès qu'il y a un truc sensationnel en science, et notamment quelque chose qui fait peur, on va le mettre en avant, et on va mettre des gros titres pour faire peur aux gens. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a tout un tas de trucs qui tournent autour, bah, d'être contre la vaccination, qu'il faut pas donner des antibiotiques aux enfants, même quand ils sont à l'article de la mort et qu'il y a un antibiotique pour leur sauver la vie. Vous voyez, des choses comme ça. Parce que, eh ben, on a trouvé la petite étude qui a été contredite peut-être par 2500 autres études, mais celle-là, elle a été mise en avant dans un article, comme on appelle, entre guillemets, putaclic, c'est-à-dire l'idée de faire cliquer un maximum. Mais pourquoi, en fait, on fait ça? Pourquoi? Parce que quand on y réfléchit, on s'attendait quand même à ce que les journalistes scientifiques fassent le tri. C'est-à-dire que c'est leur boulot, quand même. Bah, sauf qu'il y a deux petits problèmes qui se posent. Le premier, bah, c'est qu'en fait, des journalistes scientifiques, il n'y en a quasiment plus dans les rédactions aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'en embauche plus, parce que bah, on préfère des journalistes people aux journalistes scientifiques. Et donc, surtout, en fait, bah, quand vous n'avez pas de journaliste scientifique et bah, ou de bagage scientifique, bah, vous avez du mal à faire le tri. Vous vous en tenez juste en fait, au service de com des gens qui vont mettre en avant l'étude. Et il suffit que le service de com soit plutôt bon pour que l'étude se retrouve diffusée dans toute la presse. Et le deuxième, en fait, c'est que comme il n'y a pas de bagage scientifique fort dans les médias aujourd'hui, et ben en fait vous avez tout un tas de trucs faux qui, dès que ça comporte des termes importants, sont mis en avant. Par exemple, dégénération de l'ADN, ça fait la trouille, dégénération de l'ADN. Mais en fait, des scientifiques qui disent, ben oui, mais la dégénération de l'ADN, elle peut être provoquée par plein de choses, par le vieillissement, par exemple, votre ADN, il peut dégénérer, voilà. Donc dire que les souris, au bout de 12 semaines, c'était forcément cette exposition qui a créé cette dégénération, ils disent non, pas forcément, ça peut être aussi le vieillissement des souris qui fait que, comme elles arrivent vers, elles se rapprochent de leur fin de vie, bah, comme chez les vieux chez nous, l'ADN se dégrade, c'est normal, c'est pour ça qu'on vieillit et qu'on meurt d'ailleurs. Donc en fait, ils disent non, c'est une conclusion trop hâtive. Sauf que, bah, comme c'est une phrase choc et que ça fait bien, on met ça en gras dans l'article et hop, ça fait peur. Sauf qu'on n'explique pas ce que ça veut dire et que c'est pas si grave que ça et que ça peut être d'autres causes que en lien direct avec ce dont on parlait. Et c'est dangereux aussi parce que ça permet à n'importe quelle idée de passer sous ce qu'on appelle la pseudo-science. Vous savez, c'est la pseudo-science des peurs, ça s'appelle comme ça. Alors par exemple, c'est comme ça qu'on a des marchés qui s'ouvrent. Par exemple, les marchés dits de la parascience. C'est-à-dire, par exemple, les caleçons anti-rayonnement.
Vous voyez,
derrière, des caleçons que vous portez pour que votre téléphone portable ne touche pas à vos testicules, voilà, ou à vos ovaires. Mais c'est plutôt orienté vers les messieurs, parce que quand même, c'est eux qui ont plus peur. Hein, voilà. Vous avez aussi des trucs comme les gélules miracles pour maigrir, qui sont vendus généralement par des anciennes stars des années 80 qui vous disent, grâce à ça, j'ai perdu 263 kilos. Voilà. Et vous avez aussi des peurs et des angoisses qui sont mises en avant de plus en plus, comme par exemple, on va vous dire, ah, attention, parce que si vous utilisez tel type de mascara, par exemple, je prends l'exemple que j'avais là, tel type de mascara, il contient des nanoparticules, sans vous dire qu'en fait, aujourd'hui, tous les mascaras contiennent des nanoparticules. Donc, il y a des marques qui vont arriver et qui vont dire, ah, mais nous, en fait, vous savez, on met pas de nanoparticules, puis vous allez découvrir plus tard que si, et qu'elles se positionnent juste à ce moment-là, en fait.
Surtout, ils disent pas si c'est bien ou mal.
Non, c'est ça. C'est...
On n'utilise pas ça, oui, mais bon.
Mais ils disent pas surtout par quoi ils l'ont remplacé. Parce que des fois, c'est ça le truc. L'arnaque est là. C'est-à-dire qu'on le remplace par quelque chose, des fois, qui est pas bien mieux. Sauf que voilà. Et ça crée une sorte de flou. Et le vrai problématique aujourd'hui, c'est qu'Internet, en particulier, vit sur le flippant. C'est-à-dire qu'on nous fait peur en permanence. Et qu'on n'a plus, aujourd'hui, de temps de recul avec la vitesse à laquelle ça va. Mais du coup, on joue à se faire peur toute la journée. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Parce que, qu'est-ce qu'il y a de mieux finalement que la science pour faire peur, sachant que la science, elle avance aussi en découvrant des choses parfois étonnantes, qui peuvent foutre la trouille parce que ça nous dépasse. Et ben, c'est devenu aujourd'hui entre guillemets, le système de putaclic, comme on dit sur Internet, le plus avancé, où la pseudo-science et parascience sont mis en avant en permanence. Il y a 9 articles de pseudo-science partagés tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de science fausse. C'est énorme, par jour. Okay. Voilà. Par les gens, par nous. C'est-à-dire que c'est mis dans les médias au départ, et puis y a des tas de sites en fait qui en créent tous les jours. Voilà.
Oui, mais
quoi.
Je comprends pas. Il y a 9. C'est à dit quoi ?
Il y a 9 articles en fait de science fausse qu'on appelle la pseudo-science, de trucs qui reposent sur rien, mais qui affirment des choses qui sont partagées tous les jours sur les réseaux sociaux.
D'accord. En masse.
En masse. D'accord. C'est énorme hein, quand même 9 par jour. C'est pas anodin.
Ça me rappelle juste un petit peu une chronique que j'avais fait il y a quelques temps sur le fact-checking.
Ouais, c'est ça.
Et un petit peu de ça, en fait. Il y a ce côté où ça part tellement. Et en fait, il y a surtout ce qui est flippant, c'est que sur l'étude que j'avais vue, c'est la galère pour remettre les choses dans le bon ordre derrière. Mmh. C'est que c'est beaucoup plus long après pour faire entendre la vérité. Quand il y a une fausse information qui est partie, c'est un calvaire. Et puis en fait, c'est pas lu. Parce que. À l'époque, c'était déjà comme ça, et puis là, c'est la même chose. Quand tu as lu un article sur quelque chose, tu vas pas en lire 5 autres pour savoir si c'est vraiment vrai. C'est ce qu'on devrait faire, mais quelque part, par fainéantise et parce qu'il faut aller vite, parce que nous aussi, il faut qu'on aille vite dans l'information, il faut qu'on en mange, vite, vite, vite. On va en lire un, on va en lire deux quand on est bon élève, et puis après, on va se dire que c'est bon. On sait la vérité.
Ouf. Mais on voit avec cet exemple que quand il y a une vraie méta-étude qui existe avec des vraies conclusions, elle n'est pas mise en avant parce qu'elle ne fait pas cliquer, quoi. Et c'est ce que tu dis, parce que les gens ne vont pas cliquer sur une étude qui dit on n'en sait pas beaucoup plus sur les cigarettes, sauf les 3 points qu'on connaissait déjà. Et pourtant, c'est le cas aujourd'hui.
Article sur les cigarettes, sur les e-cigarettes, pareil qu'il y a 5 ans.
Mais
on
c'est
sait
ça.
Toujours pas.
C'est-à-dire, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est même à la limite une bonne nouvelle dans le sens où il n'y a pas d'avancée qui dise c'est hyper toxique ou plus ou moins. Il y a juste, on en est toujours au même niveau. Sauf que c'est ça le problème, c'est que ça fait pas que vendre du clic. Et peut vendre moins cher des espaces publicitaires aussi, du coup. Parce que plus vous avez de clics, plus vous pouvez vendre des espaces publicitaires.
Et oui.
Et l'éternel problème.
Et moi, je voulais juste annoncer un truc qui est assez scientifique aussi, c'est que la vie est mortelle. Voilà, je vous laisse là-dessus.
Oh. Et moi, je dis là-dessus, il faut faire une coupure musicale pour y réfléchir.
Thank you.
de retour dans la causerie. Alors, on s'excuse si vous avez entendu des grésillements pendant la musique, on ne sait pas d'où ça sort. C'était donc Trianne avec The Velvet Hauteur. Voilà. Et Jean-Yves, tu voulais nous présenter un nouveau journal qui est sorti il y a peu de temps. Ouais. De quoi ça
est il est sorti un petit moment quand même, mais c'est juste que vu qu'il est trimestriel... On n'en est qu'au troisième numéro. Alors, je vais vous parler de Casserole, un journal féministe et libertaire, trimestriel et à prix libre. Alors, Casserole, de casser, hein, le verbe, hein, qu'on casse, briser, oups. Et rôle, ben, des rôles qu'on est censé toutes et tous... Enfin, c'est même pas censé, on est sommé de jouer ces rôles-là dès notre plus tendre enfance. Et en fait, pour commencer, je me suis dit que le mieux, c'est de vous lire l'édito du premier numéro, hein, qui date d'août 2017, qui en dira beaucoup sur les ambitions portées et les sujets que vous y trouverez. Alors, je vous le dis, hein. Donc, dans les livres de lecture des enfants, les attributs du féminin et du masculin sont toujours les mêmes. Aux femmes, le tablier et la poussette, aux hommes, l'attaché case quand ils rentrent du travail, puis le fauteuil et les lunettes pour lire le journal, papa lit et même mon cou. Nous sommes quelques-unes et quelques-uns à nous sentir à l'étroit dans nos habits sociaux, à vouloir bousculer les idées reçues et casser les rôles. Nous avons choisi pour mascotte ces héroïnes discrètes du quotidien que l'on a tendance à oublier, rangées sur leurs étagères, les casseroles sans lesquelles nous serions toutes et tous au régime sec. Contraception, IVG, violence, viol, mutilation sexuelle, harcèlement, parité, inégalité salariale, travail domestique, etc. Nous nous proposons de dresser un état des lieux, de recenser ce qui paraît sur ces questions et de donner la parole à des femmes et des hommes anonymes qui résistent aux stéréotypes sexistes. Nous avons constaté l'absence d'un journal de large diffusion et pour tout public sur ces sujets et, irréalistes que nous sommes, nous voulons combler ce manque. Alors, tentons le coup. L'équipe de départ se compose de 9 personnes, femmes et hommes, mais nous comptons sur nos lectrices et lecteurs pour venir se joindre à nous ou nous envoyer articles, idées et critiques et aider à la diffusion essentielle pour que notre casserole ait un avenir. Donc voilà, je pense que vous avez quand même un peu compris vers quoi, enfin, la position que prend le journal.
C'est un journal masculiniste, non, c'est ça? Ah non, je n'avais pas compris.
T'as tout compris. C'est le journal, en fait, d'Éric Zemmour.
Ah bah.
Non, merde. Donc j'ai quand même balayé vite fait quelques sujets que vous trouverez dans les deux premiers numéros. Alors je pense qu'ils sont encore trouvables.
Normalement.
Parce que je crois qu'ils avaient réédité... des deux en fait, mais bref. Donc un état des lieux, un balayage des sujets. Donc il y a un état, enfin il y a plusieurs fois des états des lieux de l'IVG, tant sur l'historique, les dates, etc. Des différentes mesures qu'il y a eu, pas que autour de l'IVG, mais aussi du contrôle des naissances en fait. Donc les obstacles aussi que vous pouvez rencontrer pour y accéder, ça cause aussi de sexisme et du mépris qu'on peut croiser dans le milieu médical. Ça cause aussi, alors il y a un article, c'est la lutte fractionnée qui est une lutte perdue, et c'est donc un article autour de l'intersectionnalité qui est porté par plein de courants, mais qui finalement, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment portés jusqu'au bout par ces mêmes courants, parce que l'intersectionnalité, ce n'est pas prendre juste une lutte, c'est prendre en considération toutes les discriminations face auxquelles on peut être en fait. Donc voilà. Il y a aussi un article sur la lutte des femmes autochtones au Canada. Il y a un hommage à Simone Veil qui se fait tout en niant pas les oppositions et les désaccords politiques qui peuvent exister, ou en tout cas qui existaient vu qu'elle est décédée, mais qui existent en tout cas avec l'équipe qui porte le journal. Il y a aussi une interrogation sur que fait-on des violeurs ? Parce que si on est libertaire ou anarchiste, la prison, l'enfermement, c'est pas normalement quelque chose qu'on aime.
Oui.
Donc, c'est pas parce qu'on n'aime pas la prison que pour autant les personnes qui commettent des crimes et tout ça ne doivent pas quand même être pris en charge par la société, quoi. Donc parce qu'à un moment donné, on va pas laisser courir les violeurs et les violeuses dans la rue, même si elles sont bien moins nombreuses. Ça cause aussi des ordonnances de Macron et de toute sa clique qui vont aggraver les inégalités hommes-femmes. On y trouve aussi de la poésie, des présentations de livres, ainsi que des portraits de femmes d'aujourd'hui, de femmes d'hier, des femmes d'ici, des femmes d'ailleurs, et surtout et toujours des femmes en lutte, en fait. Quelle que soit l'époque où elles ont vécu. Et dans le numéro 3 qui vient de sortir là, au mois de février, vu que c'est un trimestriel, hein, vous faites le compte, août, septembre, octobre 2017, novembre, décembre, janvier, et donc février, mars, avril, c'est le numéro 3. Et donc dans celui-ci, bah, y a déjà des nouvelles plumes qui ont rejoint l'équipe mixte, ce que je trouve assez intéressant quand même, c'est de s'enrichir au fur et à mesure des choses. Et bien dans ce numéro 3, vous trouverez des articles autour des agressions, du harcèlement, ainsi que des hashtags.
Des hashtags MeToo,
mais je cherchais, c'est dièze.
Mot dièze.
Oui, mot dièze.
Tu voulais parler comme l'Académie française.
Oui, c'est ça. Pardon. Donc, MeToo et Balance ton port, et leur portée aussi internationale, parce que ça, c'est intéressant aussi. C'est que c'est aussi des choses qui se sont développées dans d'autres pays. C'est pas qu'un truc, je sais pas, de pays riches, occidentaux, etc. Si l'Occident veut dire quelque chose. Et donc voilà, donc ça, c'est aussi assez intéressant. Ça parle aussi du masculinisme. Dont tu parlais avant, bah de ce que c'est le masculinisme. Mmh. Parce que c'est bien beau de dénoncer, oh, il est masculiniste. Oh, oui, enfin, pas forcément. Je ne pense pas que toute la population mondiale, en dehors des universitaires et des milieux militants, soit au courant spécifiquement de la définition du masculinisme.
Mais c'est bien de ramener les mots et de les redéfinir.
Oui,
c'est important, en fait.
De partager le savoir. C'est On ça. Est toujours dans cette notion-là. Hein. C'est, faut juste pas apprendre ses cours, faut aussi partager.
C'est le côté libertaire de Casserole.
Bah ouais. Et ça parle aussi de l'excision. Alors bah oui, enfin, on en a déjà parlé ici et. Enfin, je vais pas dire que ça me faisait plaisir, mais de voir que justement c'est aussi une cause qui doit être prise en compte par nous toutes et tous, parce que c'est pas parce que ça se passe ailleurs. Ou même pas forcément ailleurs, mais que ça nous concerne pas. Enfin, c'est toujours cette notion-là. Ça parle aussi de femmes en migration. Ça parle aussi toujours encore de bouquins, d'expos et de bien, bien d'autres sujets. Donc, vous l'aurez compris, hein, je vous invite à lire ces trois premiers exemplaires de Casserole. Alors, c'est ce que... Enfin, c'est non pas parce que ce serait l'alpha et l'oméga du féminisme, mais bien parce qu'en fait, déjà, les journaux féministes sont rares. Franchement, il y en a
assez peu, oui.
Oui, il y en a quand même assez peu.
Enfin, en tout cas, de grands tirages, il y en a peu. Hein.
Oui. Aussi parce qu'ici, point de féminisme différentialiste. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Différentialiste, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas la notion que d'autres soient maltraités parce que ça ferait partie d'une présupposée culture ou je ne sais pas quoi, en fait, ce qui n'est qu'un racisme en fait caché, en fait, hein, quand on voit le monde comme ça, selon moi. Et aussi parce qu'il est toujours bon, je pense, de secouer nos pensées, en fait, nos certitudes ou nos positions, alors qu'on vit toujours, et... ça s'arrêtera peut-être pas demain quand même, dans une société patriarcale et sexiste. Donc voilà, et je l'apprécie aussi parce qu'il n'y a pas de publicité dedans, et parce que c'est un journal à prix libre. Et ça, c'est quand même, là encore une fois, c'est des démarches qui sont quand même très rares. Donc voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est pour savoir où vous le trouvez, ou pour vous abonner aussi, je vous invite à envoyer un mail à l'adresse... Casserole, donc Cass, CASSE-6, Roll au pluriel, ROLES, @outlook.fr. Et je tâcherai de vous mettre, je sais pas comment, mais.
Le bulletin d'abonnement.
Le bulletin d'abonnement, en fait, sur le blog de la causerie. Et voilà. Et si vous feuilletez ce journal, etc., faites des retours, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Après, encore une fois, moi, je suis pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai pu y lire. Mais en même temps, si je voulais lire un truc avec lequel je suis totalement d'accord, je ferais mon petit journal rien qu'à moi et je vous emmerde, mais je ne le fais pas. Et j'aimerais rappeler aussi qu'on est plein de fois pas d'accord avec plein de choses, en fait.
Et heureusement.
Mais oui, en fait, c'est-à-dire que parce que j'ai lu une critique sur ce journal d'un anarchiste, tout ça, et en fait, je me dis juste, mais dans quel monde vis-tu, mon ami ? Parce que moi, en fait, que j'aille sur plein d'autres sites, ou même, non, je veux dire, on peut être sur un exemple, une radio, hein, dans laquelle je suis aussi, je suis pas forcément d'accord avec toutes les positions politiques que je peux entendre dans cette radio. Mais comme je suis pas forcément
dans l'émission,
dans l'émission. Donc c'est aussi toujours pareil, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on attend toujours une forme de pureté des journaux, etc. Sauf qu'en fait, non, en fait, ça n'existe pas. Et si tu veux la pureté, je vous conseille les temples, les églises et tout ça plutôt que
que nos journaux libertaires.
Oui, c'est pas pur non plus.
C'est vrai.
Non, mais les gens, ils aiment bien ces imageries puristes.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement la démarche. Moi, j'ai pu le feuilleter aussi. Et il y a une démarche que je trouve intéressante dans la notion de féministe et libertaire. C'est vraiment l'idée qu'on peut avoir des avis contraires dans le même journal. On peut avoir des avis divergents d'un journal à l'autre, c'est-à-dire d'un numéro à l'autre. On peut avoir des contradictions. Et c'est-à-dire qu'en fait, on construit. Et pour moi, la notion de libertaire est là. C'est-à-dire on n'a pas de certitude, on n'a pas de dogme, mais on construit pas après pas. Et pour construire, faut qu'il y ait de la confrontation. Et par définition, la confrontation, faut qu'il y ait des oppositions, faut qu'il y ait des dissensus, et que c'est pas grave, en fait. Et moi, je trouve ça bien de l'assumer et de dire, nous, on ouvre un espace qui va permettre de discuter, d'être parfois dans la polémique, de ne pas forcément être d'accord, mais de voir qu'on a un but commun. Et moi, je trouve ça assez bien. Vraiment, je trouve que c'est assez suffisamment rare pour être souligné, en fait.
C'est tout ce que j'ai. Non, c'est tout. Oui, c'est tout.
C'est parfait.
Il est 22h55. Nous allons pouvoir continuer.
Écouter The KVB alors.
Ben oui, on va écouter un peu de musique et on revient après pour les brèves et pour se dire au revoir. Toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est toujours la causerie jusqu'à 23h et quelques petites poussières. On vient de s'écouter The KVB. Pour les puristes, ce sera en anglais The KVB ou je sais pas quoi, mais je vous laisse faire. Et moi, c'est KVB donc avec le titre Fixation. Et voilà.
C'était bien.
Ouais.
Un peu de dark wave.
Oui, moi j'aime beaucoup. Et puis, on va continuer avec des brèves.
Ouais, On commence par celle qui se passe toute la semaine. Donc, c'est la permanence d'aide aux travailleurs sans papier qui a lieu tous les jours de 10h à midi à l'Union départementale CGT 215 cours Lafayette de Lyon 6e.
Et lundi, donc demain, c'est procès ce lundi 12 février en vue de l'expulsion du squat de Cusset qui s'appelle la Maison Mandela. Pour défendre la réquisition citoyenne d'un immeuble vacant, la Maison Mandela, lieu d'hébergement de migrants et migrantes sortis du bidonville face à l'esplanade Mandela, le collectif Agir Migrants appelle un rassemblement devant le tribunal d'instance de Villeurbanne qui est aux 3 rues du docteur Pierre Papillon au métro Gratte-Ciel le lundi donc 12 demain à 9h du matin.
Sinon, il y a aussi lundi 12 février des cours de langue à destination des migrantes et migrants. C'est de 18h à 20h au local de la Plume Noire, 8 rue Diderot, dans le premier.
Et comme tous les lundis, et comme on le répète toutes les semaines, il y a la permanence de soutien aux sans-papiers et à leurs proches. Ça se passe toujours à la Lutine, c'est tous les lundis, donc de 18h30 à 20h au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement lyonnais.
Mercredi 14 février, c'est la projection du film Semences du futur. Voilà, c'est à 20h à l'Aquarium avec la revue Silence. C'est un documentaire d'Honorine Perrineau. L'homme influence l'évolution d'une biodiversité dont il dépend pour se nourrir. De la sélection paysanne aux biotechnologies, quelles initiatives permettront de produire les graines qui garantiront l'alimentation de demain? Avec la participation d'agriculteurs producteurs de semences et de plants et de nombreux chercheurs de l'INRA et de l'IRCADA, alors c'est en Syrie a priori, c'est le débat sera en présence de la réalisatrice ou de l'une de ses collaboratrices ou collaborateurs. Et c'est aussi Nécafé Aquarium, 10 rue du Mont, donc à 20h dans le 4e, le tarif c'est 6€, voilà. Et sinon, je peux continuer, il y a les magiciens du quotidien, vous savez on les avait reçus dans la causerie il y a maintenant 3 ans bientôt,
plus,
hein. Ouais, c'était vieux quoi, mais en fait c'est des magiciens du quotidien et en fait ils veulent faire un nouvel EP. Parce qu'en fait, ils essayent de vivre dans ce monde où il faut du fric pour ça. Alors, ils ont lancé un Kiss Kiss Bank Bank. Voilà, alors vous allez sur Kiss Kiss Bank Bank et vous tapez les magiciens du quotidien et vous pouvez les aider. Voilà, tout simplement en finançant leur futur EP.
Oh, et je viens de me souvenir aussi que les Kings Queer, qu'on a déjà entendu, reçu régulièrement dans la causerie, et Stan qui sourit. Et ben, en fait, ben, les Kings Queer demandent à ce qu'on les adopte. Non, alors vous comprenez bien qu'en fait, Gris Bellet en fait, cherche de la thune parce que, ben, parce qu'il ne s'appelle pas Charles Aznavour. Et que donc, en fait, vous pouvez aller voir sur leur profil Facebook, etc. Ben, les Kings Queer cherchent un peu de thune. Donc, si vous avez quelques euros, je pense que ça leur fera beaucoup de bien.
Ah, là aussi, peut-être en vue d'un troisième album, d'ailleurs, aussi.
Oui, et de l'achat de matos, etc.
Et tout ça. Oui, parce que tout se fait pas tout seul.
Bah non. Et bah, dernier rendez-vous, c'est la semaine prochaine, c'est la causerie, dimanche donc prochain, le 18, de 22h à 23h, et on recevra deux compagnons...
Deux zadistes.
Ouais, on va dire ça, oui, deux zadistes. En tout cas, des personnes qui sont proches du mouvement, des mouvements de ZAD, donc des zones à défendre. Et là, on va parler principalement de celle de Notre-Dame-des-Landes, avec on a annulé la construction d'un aéroport. Mais nous, on avait envie d'en causer un petit peu et de se dire, l'historique, et puis aussi, c'est quoi la suite, en fait, parce que...
Et puis, c'est quoi une ZAD aussi?
C'est quoi aussi une ZAD,
etc. Je pense qu'il serait important qu'on redéfinisse tout ça.
Ouais.
Voilà.
Donc on va causer, tout ça se construira dans la semaine à venir et on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain de 22h à 23h
si vous voulez.
Bien évidemment, on force personne. On n'a pas les moyens.
On n'est pas Elon Musk.
On n'a pas les moyens. Mais voilà. Et ben on se quitte là-dessus, n'est-ce pas?
Mais en musique du coup.
Mm-hmm. Oui.
Et là tout le monde se tourne vers Clara.
Vas-y Clara. Bah non. On se quitte avec Mousseau de Sona Jobarté.
Et bien à la semaine prochaine.
Oui.
Des bisous à tous. Salut.
Ciao.
Como sou Glaçon, j'ai cru bon de goûter.